Lundi 16 octobre, l'info sur RMC.
Il est 7h et Chloé Cambrelin est là pour les dernières informations. Chloé, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Emmanuel Macron attendu par les maires de banlieue. Ils participent aujourd'hui aux états généraux de la politique de la ville. Nous avons suivi l'interview du président avec eux. Libération ou délation, débat après les milliers de témoignages postés sur Twitter dans la foulée du scandale Weinstein. Et puis un traitement alternatif au Lévothyrox arrive sur le marché français aujourd'hui. Reportage auprès de patients méfiants. RMC 7h01, bienvenue. Pas le président d'un clan, pas un président méprisant. Emmanuel Macron s'est appuyé à se défaire de l'image qui commence à lui coller à la peau 5 mois après son arrivée à l'Élysée. Sur TF1 hier soir, le président de la République a d'abord été longuement interrogé sur ses mots, les petites phrases et les termes fainéants, bordel, etc. qui ont tant fait réagir ces derniers mois. Je continuerai à dire ce que je crois vrai, a affirmé le chef de l'État.
J'assume totalement ce qui a été dit. Quand on dit cela, on n'agresse pas ou on n'invective pas les Françaises et les Français. Je n'ai pas insulté qui que ce soit. Et je ne le ferai jamais parce que je considère l'ensemble de mes concitoyens. Parce que je suis le président de tous les Français. Nos élites politiques se sont habituées à ne plus dire les choses. À avoir un discours, en quelque sorte, aseptisé. Et à considérer que ce qui était intolérable, c'était le mot qu'on mettait et pas la réalité qu'il y avait derrière. Non.
Le président de tous les Français et pas seulement celui des riches. Ça, c'était ensuite l'explication sur le fond. Emmanuel Macron a tenu à justifier la réforme de l'ISF, Stéphanie Collier.
Si l'impôt sur la fortune était utile et rapportait beaucoup d'argent à l'État, ça se saurait, a dit en substance hier soir Emmanuel Macron, en rappelant qu'aucun pays autour de nous n'a conservé cet impôt. Pour le chef de l'État, l'ISF a surtout contribué à faire fuir les Français les plus fortunés. Hier soir, il a donc rappelé l'esprit de sa réforme. Il réduit l'ISF et le transforme en simple impôt sur la fortune immobilière. Emmanuel Macron table sur le fait que les Français les plus fortunés, pour échapper à ce fameux impôt sur la fortune immobilière, ne placeront plus leur argent dans la pierre, mais plutôt dans des produits finançant l'innovation et les entreprises. Toute la question est de savoir si les plus fortunés joueront le jeu et investiront effectivement dans les entreprises françaises. Emmanuel Macron l'a redit hier soir, il y croit, mais dans les faits, à ce stade, rien ne les y oblige. Le risque d'aubaine existe bel et bien, reconnaissent les spécialistes à Bercy.
Emmanuel Macron qui répète que les réformes doivent être prises dans leur globalité, de son point de vue. On ne peut pas, par exemple, évoquer la hausse de la CSG sans prendre en compte la baisse de la taxe d'habitation, y compris pour les retraités. Selon un sondage flash RMC Atlantico Harris Interactive, 54% des personnes qui ont écouté l'intégralité de l'interview ont été convaincues. Eux attendent de voir et d'être rassurés. 300 maires de banlieue et associatifs participent aujourd'hui aux états généraux de la politique de la ville, organisés par l'association Bleu Blanc Zèbre. Des maires qui disent représenter 5,5 millions de Français qui se sentent pour l'heure éloignés des priorités affichées. Victor Joannin a suivi l'intervention du chef de l'État auprès de plusieurs de ses élus.
Le président de la République a entendu le cri d'alerte des maires de banlieue.
Je veux leur dire ici que je suis sensible à leur message. Je sais que demain, ils tiendront des états généraux. Je les recevrai.
De quoi satisfaire l'organisateur de ces états généraux, Jean-Philippe Asensi.
C'est une première étape. Maintenant, qu'est-ce qu'il annoncera à la suite de nos propositions? C'est ça notre questionnement.
Pour les quartiers populaires, la France qui réussit, promue par Emmanuel Macron, paraît inaccessible, rappelle la maire de Montceau-les-Mines, Marie-Claude Jarreau.
Nous avons des jeunes dans les quartiers populaires très éloignés de l'idée de formation professionnelle, même de l'idée de formation professionnelle. Il faut qu'ils nous donnent les moyens de faire ce travail.
La baisse drastique des contrats aidés est au cœur des inquiétudes chez les élus locaux, mais aussi chez les directeurs d'associations comme Mohamed Camara.
On ne sait pas où on va. C'est qu'à un moment donné, dans 4-5 mois, je ne sais pas où si je vais pouvoir renouveler les contrats que j'ai actuellement.
Et associatifs comme élus attendent désormais du président des mesures fortes et immédiates.
Et hier soir encore, Emmanuel Macron a promis une procédure de verbalisation plus simple des actes de harcèlement, écho au projet de loi que Marlène Schiappa annonce ce matin dans le journal La Croix, un texte déposé l'an prochain qui aura notamment pour objectif d'allonger les délais de prescription pour les crimes sexuels et d'instaurer un non-consentement présumé des enfants en matière de relations sexuelles. En attendant, le hashtag balance ton porc reste l'un des plus utilisés ce matin encore sur Twitter. Depuis vendredi, ce sont des milliers de femmes qui témoignent de remarques ou faits de harcèlement, voire pire, subis au travail. Réaction évidemment à l'affaire Harvey Weinstein, c'est la journaliste Sandra Muller de la Lettre de l'Audiovisuel qui a invité vendredi à raconter avec nom et détail. Pour elle, il est important de dire de qui l'on parle.
Comment voulez-vous que les gens s'arrêtent si on les nomme pas? Et rien ne les arrête, ces gens-là. Donc oui, c'est important. Moi, j'ai mis un nom, j'ai tout blindé avant juridiquement. La personne s'est retirée un peu de Twitter, elle a cherché à m'appeler. Il faut se protéger, il faut pas faire ça n'importe comment. Donc j'aimerais qu'il y ait plus de noms.
Sauf que donner des noms peut aussi s'apparenter à de la diffamation. C'est la mise en garde faite par Thierry Valla, avocat spécialiste de ces questions.
Je dis attention, la parole est libérée depuis l'affaire Weinstein et c'est très bien, mais les plaintes c'est devant l'officier de police judiciaire, c'est devant les tribunaux. Éviter quand même Twitter et éviter de nommer des personnes quand même qui peuvent être identifiables parce que derrière ça peut se retourner contre vous. Il pourrait être amené à attaquer ensuite en diffamation. Tous les faits antérieurs à 2011 aujourd'hui ne peuvent plus être poursuivis. On aura quasiment une condamnation en diffamation si les faits sont prescrits.
Pour ou contre la dénonciation de harceleurs sur les réseaux sociaux, on vous pose la question dans Bureau de vote ce matin. Rendez-vous à 9h30 au 32-16 sur RMC, sur la page Facebook Bourdin Direct. Un nouveau médicament contre les problèmes de thyroïde, le L-thyroxine Enning, arrive aujourd'hui sur le marché français. Ce produit fabriqué par Sanofi est censé offrir une alternative aux patients qui supportent mal le Levothyrox nouvelle formule. Mais ces patients sont méfiants, Anaïs Boutcha.
Malade de la thyroïde depuis 11 ans, Elodie reste traumatisée par les effets du Levothyrox nouvelle formule.
Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à faire confiance et je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être dans le même état d'esprit que moi.
La jeune maman, enceinte de 7 mois, est sur ses gardes concernant le nouveau médicament des laboratoires Sanofi.
Je vois pas pourquoi j'aurais plus confiance en Sanofi qu'en Merck. On attend de voir si tout le monde va être fourni correctement, on attend de voir si la qualité du médicament va être là. J'ai eu des craintes pour mon bébé, pour sa santé. Je me retrouve avec ce changement de traitement en cours de grossesse et je suis très en colère.
Des patients inquiets comme Elodie, le docteur Nicolas Bouvier en rencontre tous les jours, mais le médecin généraliste ne se veut pas alarmiste.
On a évidemment un travail d'explication à faire auprès des patients. Tout le monde espère que ces nouveaux médicaments vont permettre aux patients d'être bien soignés. J'ajoute quand même que nous avons en face de nous un laboratoire qui est réputé pour son sérieux. On peut quand même penser que le traitement qu'il propose sera convenable.
L'agence du médicament a fait une demande de mise sur le marché du L-thyroxine Enning pour offrir aux patients une alternative pérenne au Levothyrox.
La Somalie en deuil après l'attentat le plus meurtrier de son histoire. Le bilan vient encore de s'alourdir. On parle désormais de 276 morts et 300 blessés. Attaque dans le centre de Mogadiscio samedi au camion piégé non revendiqué pour le moment, mais le président l'attribue aux islamistes Chebab. Marseille, 4e de Ligue 1 ce matin. Hier soir, l'OM a fait match nul à Strasbourg, 3 partout, un score frustrant pour l'entraîneur marseillais Rudy Garcia.
C'est une frustration qui domine, même s'il faut féliciter les Strasbourgeois. Ils ont été menés 2 fois au score et ils ont réussi à nous mettre 3 buts et à prendre l'avantage. On a su au moins égaliser, mais c'est vrai qu'on peut être que frustré et déçu. C'était plus un beau match pour les téléspectateurs. Et aujourd'hui, les spectateurs de la Méno que pour les coachs, quoi, certainement.
Voilà, on retient la prestation côté marseillais de Kostas Mitroglou, directement impliqué dans 2 des 3 buts marseillais. C'est lui notamment qui a égalisé en toute fin de match.
Il est 7h08, merci Chloé. 7h08, bientôt le Classico, hein. Je crois que c'est dimanche prochain, me semble-t-il. Le Classico entre Marseille et le Paris Saint-Germain, ou le dimanche d'après, je ne sais plus. 7h09, allez, Stéphane Gatignon est avec nous. Stéphane Gatignon, bonjour.
Bonjour.
Maire de Sevran, soutien d'Emmanuel Macron durant la campagne. Dites-moi Stéphane Gatignon, vous avez regardé le président de la République hier soir, j'imagine.
Absolument.
J'imagine. Concrètement, qu'avez-vous retenu dans le concret, sincèrement?
Qu'il a annoncé qu'il recevrait les maires, qu'il faisait les états généraux aujourd'hui. Le concret, bon. Il est là, quoi.
Le concret, il est là.
Ouais. Enfin,
c'est tout ce que vous avez retenu de concret de cette intervention.
Non, après,
peu d'annonces, c'est vrai.
Il y a peu d'annonces. Je pense que, vous savez, je pense qu'il faut voir après comment se font les choses, quoi. Hein, et moi, je crois ce que je vois. Hein,
oui.
Les paroles, ça fait longtemps maintenant.
Vous êtes comme moi. Il y a le concret qui compte.
Absolument.
C'est vrai qu'hier soir, j'ai pas vu beaucoup de concret. Nous verrons bien. Stéphane Gatignon, vous dites vous êtes maire de Sevran. Vous rappelez que 8 millions de personnes vivent dans des banlieues en France.
Oui, ou zones périurbaines avec des communes fragiles en région. Hein.
Ouais, 8 millions, c'est énorme. Et vous dites, à Sevran comme ailleurs, on n'arrive plus à joindre les deux bouts.
Bah, pour les communes, c'est de plus en plus dur, notamment les communes fragiles. Oui. Et donc, là, aujourd'hui, voilà, il y a des maires de toutes couleurs politiques, de différentes associations de maires aussi.
Qui se retrouvent,
qui se retrouvent. On s'est retrouvé déjà cet été pour signer un texte qui disait attention, l'annonce de la fin des contrats aidés était dramatique à la fois pour tout un tas de communes, mais aussi pour tout un tas de. Vous aimez bien le football, mais la base par exemple dans le foot aujourd'hui, c'est les contrats aidés, parce que dans les clubs, je prends juste la Seine-Saint-Denis, il y a 500 matchs à faire par semaine, à conçoit, à faire, à organiser tout ça, et c'est énormément dans les clubs de contrats aidés des jeunes qui aident. À la vie, au lien social, à la vie, à la structure des clubs et voilà. Et si ça s'arrête, vous qu'est-ce qui va se passer derrière?
Voilà, vous demandez le retour des contrats aidés.
On demande en fait qu'il y a 54 000 contrats aidés aujourd'hui qui sont dans les zones prioritaires.
Donc dans les zones prioritaires, 54 000 contrats aidés.
Plus on demande qu'il y a un vrai travail, notamment avec le mouvement sportif, pour regarder justement, parce que bon,
donc
les clubs,
vous demandez
partout,
à ce qu'on les conserve, ces 54 000.
Oui, 54 000, plus ceux qui sont dans le mouvement sportif aussi, parce qu'on considère que c'est ça le lien social aujourd'hui dans notre pays.
Oui, oui. Que demandez-vous encore? Vous demandez une revalorisation des associations de quartier.
On demande que la politique de la ville perdure. Voilà, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en fait des coupes. Non, on pense que voilà, il y a tout un tas d'associations qui vivent et de collectivités locales aussi qui vivent et qui font des actions grâce à cette politique de la ville qui aujourd'hui est devenue le parent pauvre quand même. Hein. Vous disiez 8 millions de personnes, mais c'est
Emmanuel Macron
qui
n'en parle jamais.
Voilà,
jamais, très peu.
Faut être clair, alors qu'il avait commencé sa campagne, notamment en banlieue, en montrant, en disant aux jeunes qui étaient là, vous êtes aussi l'avenir du pays, parce que on est les territoires les plus jeunes, on est les territoires cosmopolites, les plus jeunes, là où il y a l'avenir quand même. Oui. Donc ça, il faut travailler dessus.
Il faut qu'un ministre d'État se charge de la question des banlieues.
On pense qu'il faut que ce soit au cœur de l'action gouvernementale et de l'action, j'allais dire, faut que la nation prenne conscience de ce qui se passe aujourd'hui, des ruptures qui existent en bas et le représentant finalement de l'incarnation aujourd'hui de la...
et des ruptures et de l'énergie qui existe en banlieue.
Il y a de l'énergie, c'est pour ça qu'on
a l'innovation.
On a des revendications, y compris sur les finances locales. C'est un thème qui m'est quand même un sujet qui m'est cher et important parce qu'il faut que les communes, on arrive justement, ce que vous dites, à joindre les deux bouts, à faire le service minimum. Ça, faut qu'on le fasse. On a un certain nombre de demandes, mais aussi on a une demande particulière qui est de dire au gouvernement, soutenez les gros projets d'innovation qu'il y a dans nos territoires. Parce que c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a, au niveau urbain, au niveau des projets économiques, etc. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un regard particulier du gouvernement. C'est pas de l'argent, ça. Mais c'est, voilà, aider.
Vous dites
et
aussi,
puis aussi, Monsieur Bourdin,
allez-y.
Par exemple, nous, les communes, on a des problèmes financiers, c'est clair. Mais aussi, par exemple, on a le problème d'avoir recours à l'emprunt. Parce que les banques ont du mal à prêter. Ils préfèrent prêter aux riches, quoi. Hein, c'est un peu ça. Oui. Donc, ils ont du mal à nous prêter. Par exemple, le gouvernement, le ministre pourrait nous aider, justement, nous, les communes, à dire aux banques, on vous a aidé en 2007-2008, aidez ces communes-là. Donc...
C'est le rôle de l'État.
C'est aussi, je pense, le rôle de l'État. On nous demande aujourd'hui ce qui est juste. C'est une bonne mesure. Vous disiez, Macron, une bonne mesure de Macron. La question des CP. Par exemple, le dédoublement des CP dans les REP.
Ça fonctionne?
Ça fonctionne. Sauf
à
que
Sevran,
ça fonctionne à Sevran, ça fonctionne à Clichy-sous-Bois, dans tout un tas de villes. Sauf que nous, on est les villes les plus jeunes. 25% de la population à Sevran a moins de 14 ans. Ouais. Donc, on a nécessité d'encadrer ces gamins. Sauf que ça vaut de l'argent aussi. Ouais. Et ça nous a coûté cet été à faire des travaux. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des bonnes politiques. Il faut aussi les accompagner.
Fusionner les polices aussi.
Ouais. On a déjà retrouvé nos effectifs d'il y a 10-15 ans. Sevran, quand j'ai été élu maire il y a longtemps, maintenant, il y avait 113 effectifs. Aujourd'hui, il y en a 80. Oui. Donc, si vous voulez, un peu plus de 80.
Vous avez perdu 33 policiers.
Donc, si vous voulez, aujourd'hui, un, faut retrouver nos effectifs d'il y a 10 ans.
Oui.
Et puis, deux, moi, je pense qu'il faut, effectivement, comme dans d'autres pays, on n'invente pas l'eau tiède, hein, il faut dire, voilà, on met tous beaucoup d'argent, les collectivités locales, dans la police, sur le terrain. Il faut fusionner ces polices. Ouais. Avec, après, diriger la police en uniforme, le marine, ceux qui sont sur le terrain. Je ne parle pas des polices d'enquête à côté, hein, qui ont un rôle toujours national, voire européen, mais la police
quoi, la
sur
police
le terrain,
nationale, la police municipale,
police nationale. Oui. Et tout cet argent, on le met dans un... là, certainement à l'échelle métropole, le responsable à l'échelle de la métropole parisienne, hein, pour ici, ou de la région en région. Et puis, on met tous... Au lieu de mettre notre argent dans des trucs différents, on met tous au même endroit.
Dans le pot commun.
Dans le pot commun.
Merci Stéphane Gatignon. Merci. Il est 7h15. Vous êtes sur RMC. Il faut écouter. Il faut écouter la parole des maires de banlieue confrontés au quotidien aux difficultés. Il est 7h15.
RMC, du pain quotidien.
Il est 7h18. Marie Dupin, bonjour.
Bonjour.
Marie, nous parlons plastique ce matin.
Exactement.
Vous n'êtes pas arrivée seule.
Non, je suis venue avec des bouteilles des flacons en plastique.
Oui.
En plastique sans une goutte de pétrole. C'est du plastique 100% biodégradable et recyclable à l'infini. C'est un ingénieur français, Nicolas Moufflet, qui a inventé ce procédé jalousement, gardé jalousement secret pour l'instant, et unique au monde. Ces bouteilles et ces flacons sont fabriqués à partir de déchets de canne à sucre. L'entreprise fabrique déjà 700 000 bouteilles végétales par an et certaines sont également fabriquées avec des noyaux d'olive, des roseaux, des pépins de raisin. Le problème, c'est que ces bouteilles, elles sont encore 30% plus chères à l'achat, donc elles intéressent pour l'instant les magasins bio, mais pas encore la grande distribution.
Montrez-moi un peu les bouteilles fabriquées avec des pépins de raisin, l'olive broyée.
Voilà, exactement. Il y a aussi de la bagasse. Il y a aussi du déchet de canne à sucre, ça s'appelle de la bagasse, mais il y a aussi une grande partie.
De la bagasse.
Ouais, de la bagasse, c'est le déchet de canne à sucre.
Oui, montrez-moi un peu cette bouteille.
Voilà.
Ouais. Elle n'est pas très jolie, mais en même temps, si elle se dégrade...
Alors, il y en a d'autres qui ressemblent vraiment, qui ressemblent vraiment à des bouteilles traditionnelles.
Oui, c'est ce que je vois, Plus de 22 000 tonnes de plastique issues de l'industrie pétrochimique finissent chaque jour dans les océans.
Chaque jour. Ça fait 8 millions de tonnes par an. Selon un rapport de la Fondation Hélène MacArthur, d'ici à 2050, les océans pourraient contenir plus de plastique que de poisson. Il y a 10 jours, une grande conférence organisée par l'Union européenne a réuni des responsables politiques, des industriels, des scientifiques qui ont dressé un bilan désastreux de l'état des océans à cause du plastique. Et pourtant, le vice-président de l'Union européenne, Frans Timmermans, a renoncé à taxer les entreprises qui fabriquent du plastique, un peu comme c'était envisagé sur le modèle de la taxe carbone. Bruxelles assure seulement travailler avec les grands groupes pour les pousser à produire davantage de plastique recyclable. Le souci avec le plastique recyclable, c'est qu'il est quand même composé de pétrole et de composés chimiques.
Alors, le plastique menace la santé des océans, mais pas seulement.
Oui, notre santé est aussi en jeu, parce que le plastique qui part dans l'océan, on le retrouve dans nos assiettes, dans la chair des poissons, dans les fruits de mer, sous forme de microparticules. Et on a même découvert très récemment qu'on le retrouve aussi dans l'eau du robinet. 83% de l'eau du robinet composée dans le monde contiendrait des microparticules de plastique. Et même, on retrouve ces microparticules dans le sel de table. Sur 16 marques de sel de 8 pays différents, toutes contiennent des traces de microplastiques, sauf une.
Mais certains plastiques sont plus dangereux que d'autres.
Oui, en fait, il existe plusieurs types de plastiques, composés de différentes substances. On peut d'ailleurs assez facilement, nous, consommateurs, savoir si un récipient en plastique est toxique, puisque chaque récipient en plastique est normalement numéroté de 1 à 7. Ces numéros, vous les trouvez à l'arrière de vos récipients, vos tupperwares, vos gobelets, vos bouteilles. Donc vous pouvez retourner, par exemple, ce sont des petits gobelets que j'ai trouvé
chez nous.
L'immeuble. Et donc, derrière, je regarde numéro 6. Le numéro 6, c'est du polystyrène. Donc, à éviter, les numéros 1, 3, 6 et 7 sur vos récipients en plastique sont à éviter car ils contiennent des perturbateurs endocriniens comme les phtalates qui peuvent migrer vers les aliments.
Oui, ça, c'est très dangereux, avec une boisson chaude.
Exactement. Avec une boisson chaude. Globalement, tous les plastiques sont à éviter, faire chauffer.
J'en mets deux, comme ça, on n'a pas chaud. Enfin,
mais il vaut mieux que tu ramènes un mug.
Tiens. Vous voulez un mug?
Non, évitez les gobelets en plastique. 1, 3, 6 et 7, c'est les numéros
1, 3,
à éviter.
1, 3, 6 et 7. Merci, Marie.
Mais de rien.
Merci.
Merci. Que pensez-vous de ces bouteilles en plastique?
Pourquoi pas?
Biodégradable.
L'avantage, c'est qu'on pourra continuer à les jeter dans la nature.
Oui, d'accord.
Ça gênera personne.
Oui, d'accord.
C'est vrai,
vous avez raison. C'est que du coup, tout le monde va jeter ça.
Mais
c'est
déjà le cas. Mais non, mais elles sont réutilisables en plus.
Oui, d'accord. Bon.
Mais non, mais Jean-Jacques.
Non, mais c'est bien.
Aujourd'hui,
c'est
les gens jettent déjà.
C'est oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison.
Tant qu'à faire, autant
vous
que
avez
que...
raison. Il est 7h22.
L'interview merci. D'Emmanuel oui. Macron, vue, écoutée par les salariés de l'usine GMS, c'est à la une du journal de 7h30. Mais tout de suite, dans Bourdin Direct, le hashtag balance ton porc. Ces femmes qui dénoncent le harcèlement sur Twitter en nommant leur harceleur. Hashtag manien dans une minute, c'est sur RMC.
RMC, hashtag manien.
Hashtag. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, il y a quelqu'un qui me tweet son gobelet en plastique maintenant, Marie. Tu vas recevoir des photos vrai. De gobelets maintenant avec des histoires.
Ouais, bravo.
Salut Simon.
Bon. Charles, après les révélations sur le producteur américain Harvey Weinstein, comme dit si bien Mathieu Béliard, la parole s'est libérée sur les réseaux sociaux. Des centaines de femmes ont pris la parole sur Twitter grâce au hashtag balance ton porc.
Oui, hashtag lancé vendredi par la journaliste Sandra Muller qui témoigne du harcèlement sexuel dont elle a été victime lorsqu'elle travaillait pour une chaîne consacrée à l'équitation. Un tweet dans lequel elle nomme son agresseur et incite les femmes à faire de même avec donc ce hashtag « balance ton porc ». C'est ainsi que des centaines de femmes vont tweeter ce week-end pour raconter des cas de harcèlement, parfois même des agressions sexuelles dans le cadre de leur métier. D'abord des journalistes qui racontent les attitudes, les propos, les gestes de leurs collègues et en particulier de leurs supérieurs masculins. Premier stage de journalisme à Paris, j'avais 18 ans, raconte l'une d'entre elles. Le rédacteur en chef m'embrasse de force. Il venait d'être jeune papa. Une autre journaliste raconte ce confrère qui lui lance « Si tu montes dans ma voiture, j'aurais envie de te violer ». Mais les médias ne sont évidemment pas le seul secteur concerné. Une jeune femme raconte ce stage pendant lequel elle avait pour consigne de ne pas mettre de jupe lorsqu'un manager en particulier était présent. Une autre raconte son prof de sport qui aidait les filles en mettant la main aux fesses et à la poitrine. « Mon pied a glissé dans sa tête », écrit-elle. Des centaines de témoignages du même genre qui vont suivre tout le week-end. Tout n'est pas dit, mais on avance, selon une internaute. Le plus triste, en réalité, c'est qu'on est toutes une anecdote.
Et comment les hommes ont-ils réagi ?
Alors, de l'empathie, bien sûr, des milliers de tweets de soutien, mais aussi de la maladresse, comme ces papas qui expliquent, après avoir lu tous ces témoignages, qu'ils vont, je cite, « inscrire leur petite fille à des cours de boxe thaï ». Ce à quoi de nombreux internautes répliquent « plutôt qu'apprendre la self-défense à vos petites filles, apprenez plutôt le respect à vos fils ». Enfin, la réaction la plus absurde est sûrement venue du journaliste Émeric Caron. Le hashtag « balance ton porc » le dérange, car il s'agit, selon lui, je cite, d'un hashtag spéciste, autrement dit, en stigmatisant. Stigmatise les porcs, mais oui, le cochon serait stigmatisé. Il aurait été préférable de choisir « balance ton harceleur » selon Émeric Caron. Non, c'est ce qui s'appelle se tromper un peu de débat et de sujet.
7h27, qu'en pensez-vous ? Dites-nous, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu, ça vous fait rire ?
Oui, c'est ce qu'il a retenu en tout cas de ce débat.
Les explications, les réponses d'Emmanuel Macron sur l'épineuse question de l'ISF, de sa suppression, c'est dans le journal de 7h30. Et puis nous revenons juste après dans Bourdin Direct sur l'attentat de Somalie, au moins 276 morts à Mogadiscio. Le bilan s'est encore alourdi. Marc Laverne, spécialiste de la Corne de l'Afrique avec nous juste après 7h30.
Oui, parce que ça me paraît quand même l'information la plus importante du week-end. 276 morts. Un attentat en Somalie. La tour Eiffel est restée allumée, hein, je le rappelle quand même. Hein. Et attentat dont on ne parle pas. Ou peu, ou pas assez. Dans tous les cas, Marc Laverne, directeur de recherche au CNRS, est là. Il va nous parler de la Somalie. Il est la demi-juste, 7h30, Sophie Paolini est là. Les dernières informations. Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. L'exercice de pédagogie d'Emmanuel Macron hier soir sur TF1, première interview du quinquennat, et un président plus déterminé que jamais à conduire ses réformes. 276 morts, plus de 300 blessés. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Somalie, deux jours après le pire attentat qui a visé la capitale, Mogadiscio. Et puis Mitroglou, sauveur de l'OM hier soir, Marseille arrache le nul à la 88e minute, 3 partout face à Strasbourg. RMC, il est 7h30. Il fait ce qu'il dit et il assume. Emmanuel Macron était hier soir sur TF1, première interview du quinquennat depuis son entrée à l'Elysée. Et pas question d'avoir une présidence bavarde, attaque-t-il en préambule. 1h15 durant, Emmanuel Macron a défendu son action sur le fond et sur la forme. Interrogé sur sa récente sortie contre ceux qui foutent le bordel visant des employés de l'entreprise GMS, il assure qu'il n'a pas cherché à humilier. Derrière leurs écrans de télé, les GMS, eux, n'en ont pas raté une miette. Et Pierre Galassio à la souterraine, les justifications du chef de l'État ont fait vivement réagir.
Autour de la table, ils sont 6 réunis pour écouter ensemble le chef de l'État. Jean-Yves a 49 ans et 17 années d'ancienneté chez GMS.
Honnêtement, je pense pas qu'on ait grand-chose ce soir.
Très vite, c'est la douche froide. Emmanuel Macron ne regrette pas ses propos d'il y a 2 semaines en Corrèze, accusant certains salariés de foutre le bordel.
Je continuerai à dire les choses, je continuerai à respirer l'air, à parler à nos concitoyens, à parfois m'emporter quand j'échange avec eux et à dire ce que je crois vrai.
On peut écraser les gens comme on veut. Alors voilà, je suis écœuré là.
Jean-Marc a 53 ans, il travaille chez GMS depuis 31 ans.
Au lieu de faire un petit pseudo mieux à coup de poids par rapport à nous, on s'est senti blessé la première fois, et ben, il en rajoute une couche et il essaye de nous isoler, de nous extrémiser, alors qu'on ne l'est pas du tout. D'entendre ça, j'ai les boules.
Une opinion partagée par Patrice, il était agent de sécurité chez GMS, il ne cache pas son désespoir.
Est-ce qu'il faut qu'il arrive une catastrophe d'une personne pour qu'on entende les gens? J'ai peur que ça finisse par arriver. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte de la réalité de la chose.
Pour lui et ses collègues, l'interview du président n'a fait qu'ajouter à leur colère.
Justement, accusé d'être le président des riches, Emmanuel Macron a fustigé hier soir les passions tristes de certains de ses opposants et de justifier sa réforme de l'USF, remplacée par un impôt sur la fortune immobilière et la taxation des signes ostentatoires de richesse.
Je crois à l'accorder. Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société parce qu'ils ont des talents. Et je veux qu'on célèbre toutes ces réussites, chacune et chacun. Il y en a d'autres pour qui la vie est plus dure, je veux les aider par leur travail à réussir. Et d'autres qui sont fragiles, nous les protégerons. Mais si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Je veux qu'il y ait des femmes et des hommes qui réussissent pour tirer les autres. Par contre, ce que je leur demande, c'est d'être des premiers de cordée. Et donc, ils doivent aussi s'engager dans la société en créant de l'emploi, de l'activité. Je crois à cela.
À ceux qui jugent ces premières réformes trop à droite, Emmanuel Macron promet des effets sur le chômage, visible dans 1 an et demi, 2 ans. Il promet de faire sauter les verrous de l'apprentissage et souhaite par ailleurs un vrai débat en 2018 pour revisiter, dit-il, l'intéressement et la participation dans les entreprises pour que tous les salariés aient leur juste part. 54% des Français qui ont suivi sa prestation, en tout cas, se disent convaincus, selon notre sondage Flash RMC Atlantico Harris Interactive. Emmanuel Macron qui annonce une procédure de verbalisation plus simple des actes de harcèlement pour qu'il y ait une réponse immédiate. Ce sera l'une des missions de la police de sécurité du quotidien. Il faudra en passer par une loi et c'est la secrétaire d'État Marlène Schiappa qui la défendra. Marion Dubreuil.
Marlène Schiappa veut verbaliser le harcèlement de rue. Elle lance dès cette semaine un groupe de travail pour définir les contours de cette nouvelle infraction entre le harcèlement sexuel et l'injure avant la fin de l'année. Une initiative soutenue par le président car Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir. La lutte contre le harcèlement sera une des priorités de la future police de sécurité du quotidien et en particulier dans les transports. Autre chantier de la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, la protection des mineurs face aux crimes sexuels avec l'allongement des délai de prescription. La ministre est en faveur d'un délai de 30 ans contre 20 ans actuellement. Et enfin, la question du non-consentement présumé des mineurs. Marlène Schiappa veut inscrire dans la loi un âge limite en dessous duquel, pour la justice, un enfant ne peut pas consentir à une relation sexuelle.
Il est bon que les langues se délient, juge par ailleurs Emmanuel Macron après l'affaire Harvey Weinstein aux États-Unis. Le chef de l'État affirme avoir engagé les démarches pour que la Légion d'honneur lui soit retirée. Alors que les témoignages se multiplient, les réseaux sociaux ont pris le relais ce week-end. Un appel lancé par une journaliste pour dénoncer le harcèlement sexuel au travail est devenu viral sur Twitter. Anonyme ou non, des milliers de femmes racontent ce qu'elles ont subi. Une bonne initiative pour Marie Alibert, c'est la porte-parole d'Oser le Féminisme.
On n'encourage pas nécessairement les femmes à nommer leurs agresseurs parce que quand il n'y a pas eu de procès, elles peuvent être attaquées. On ne veut pas qu'elles s'exposent à davantage de représailles et parce qu'on sait bien que quand elles dénoncent les agressions dont elles sont victimes, un des recours des agresseurs et une des défenses, c'est de les accuser de diffamation et autres. J'espère que grâce à ce hashtag, il y aura des agresseurs qui ne sont pas nommés mais que d'autres femmes pourront identifier pour s'en protéger. Je pense que c'est un des effets bénéfiques. Puisque la justice ne les protège pas des agresseurs, il faut que les femmes créent entre elles une solidarité pour se protéger elles-mêmes.
Propos recueilli par Aurélia Manoli. Un deuil national de 3 jours décrété en Somalie après le dramatique attentat qui a fait plus de 276 morts et 300 blessés selon un dernier bilan. C'est la pire attaque de l'histoire du pays. Pour l'heure, il n'y a pas de revendication. Elle est survenue samedi après-midi dans un quartier commercial très animé de la capitale Mogadiscio. Julien Antoine, la population pourtant en proie au conflit depuis des décennies est sous le choc.
Ils étaient des centaines hier dans les rues de Mogadiscio pour protester contre cette attaque. La colère gronde alors que le bilan humain s'alourdit au fil des heures. Selon le responsable de la police, il est très difficile d'avoir un chiffre précis parce que les cadavres ont été emmenés vers plusieurs centres médicaux et certains d'entre eux ont été directement pris en charge par leurs proches pour être enterrés. Dans la capitale en deuil, les familles sans nouvelles diffusent des photos sur les réseaux sociaux dans l'espoir de retrouver leurs proches disparus. La Turquie, un des premiers investisseurs du pays, a envoyé un avion ambulance militaire pour prendre en charge des blessés de l'attentat. De son côté, la France, avec le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union africaine, assure son soutien à la Somalie contre le terrorisme.
Et dans un instant, on y revient avec Marc Lavergne du CNRS, spécialiste de la Corne de l'Afrique, qui est l'invité de Jean-Jacques Bourdin. La chute de Raqqa en Syrie, après des mois de combat, la bataille est entrée dans sa phase finale. Selon les forces démocratiques syriennes, les combattants de l'État islamique et leurs familles se sont rendus après un accord. Le foot, suite et fin de la 9e journée de Ligue 1, l'OM qui chute à la 4e place du classement après avoir arraché le nul 3 partout hier soir sur la pelouse de Strasbourg. C'est notamment Kostas Mitroglou qui a sauvé la mise dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Sébastien Ruffet.
Marseille avait Valère Germain, Clinton Enge, voire Lucas Ocampos, mais avec Kostas Mitroglou, bien c'est un vrai neuf dont dispose désormais Rudy Garcia. Toujours au duel, toujours dans la surface, à l'affût du moindre ballon qui traîne, le grec a pesé sur la défense strasbourgeoise, poussant Bakary Koné à la faute sur le deuxième but marseillais, puis marquant lui-même le troisième en reprenant un ballon mal repoussé par le gardien Bingourou Camara. Un joueur avec de bonnes épaules, et ça manquait peut-être dans le registre marseillais, c'est en tout cas l'analyse de Valère Germain.
Un profil différent de ce qu'on avait, c'est un peu plus costaud, un peu plus physique et ça nous permet aussi d'allonger de temps en temps, donc c'est une bonne recrue pour nous dans le sens où ça change de registre avec les offensives qu'on avait.
Sans son attaquant grec, l'OM serait sans doute reparti avec une défaite de la méno. Reste à confirmer cette omniprésence en Europa League jeudi, puis dimanche prochain face au PSG. Les joueurs affirment ne pas encore trop penser à ce choc, mais ça va venir, et très vite.
Et dans les autres rencontres, notez la défaite de Nice battue 2-0 par Montpellier, l'OGC 14e au classement et match nul un partout entre Nantes et Bordeaux.
Les courses. Cet après-midi à Anguin, allez. Sébastien Darras aime le 2 Blue Story et le 14 Vivien Péo. Ibrahim Asloum fait confiance à l'As Black Atou. Laurent Guédard, quant à lui, retient le 3 Boccaccio et le 6 Archangel Am. 2, 14, As, 3 et 6.
Avez-vous regardé hier soir le président de la République? Dites-nous ce que vous en pensez. 3216rmc.fr. J'y reviendrai tout à l'heure avec Brunet Neumann, évidemment, Éric Brunet, Laurent Neumann, tout à l'heure à 8h-10. En attendant, je souhaitais que l'on parle de la Somalie. Somalie. Le dernier bilan à Mogadiscio, 276 morts. Je dis bien 276 morts et 300 blessés. Explosion de deux camions dans le centre de Mogadiscio. Nous parlons de la Somalie, la situation là-bas, avec Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la Corne de l'Afrique, notamment 7h39. À tout de suite pour savoir et comprendre sur RMC et RMC Découverte.
RMC, Bourdin Direct.
7h41 oui. Sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Marc Lavergne, spécialiste de la Corne de l'Afrique, directeur de recherche au CNRS.
Double explosion à Mogadiscio, capitale de la Somalie. La Somalie est un pays situé dans la Corne de l'Afrique. 2 200 000 habitants recensés en 2015. Depuis 1991 et la guerre civile en Somalie, la capitale a connu 20 ans de combats entre milices rivales. Avec nous, Marc Lavergne, donc, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste de la Corne de l'Afrique. Double explosion au cœur de la ville de Mogadiscio.
Oui, tout à fait, mais ça montre bien que toute la contre-insurrection qui se déroule depuis maintenant une vingtaine d'années a échoué. Dans la mesure où les chebabs entrent dans la ville comme ils veulent. Alors les chebabs, ce sont
les
rebelles.
Les chebabs,
ce sont des jeunes somaliens qui se sont réunis pour lutter contre les forces étrangères, la présence de différentes troupes qui ont été envoyées pour stabiliser le pays. Comme vous l'avez dit, il est en guerre depuis 1991, donc ça fait plus d'un quart de siècle. Il y a eu toutes sortes de tentatives de la communauté internationale de stabiliser la Somalie, mais c'est un pays qui est divisé à la fois en clans, en tribus, je dirais, et puis qu'il y a aussi une grave crise économique.
Alors, quel est le pouvoir? Qui dirige la Somalie aujourd'hui?
Alors, depuis février 2017, c'est tout récent, il y a un nouveau président, Farmajo, qui est à la fois somalien et américain, mais qui n'arrive
qui
pas...
Qui a été installé par les Américains.
Bon, on peut dire ça comme ça.
Oui.
En effet, après l'échec des tribunaux islamiques qu'on avait installés au pouvoir... en désespoir de cause, parce que finalement on s'est dit qu'il valait mieux que ce soit des islamistes qui tiennent la capitale.
Oui.
En réalité, ce nouveau président ne tient plus que la capitale, et on le voit, il ne tient même plus la capitale, dans la mesure où déjà, il y a deux jours avant l'attentat, son ministre de la Défense et son chef d'état-major ont démissionné. Et les Chebabs regagnent du terrain au fur et à mesure que les troupes éthiopiennes qui sont venues aider à la stabilisation du pays avec les Américains ont décidé de se retirer. Donc il y a une force africaine qui est là.
Oui.
Elle est là depuis maintenant une dizaine d'années, mais ça coûte $1 milliard par an. Ça ne sert à rien. C'est des Burundais et des Ougandais qui sont fatigués, qui n'arrivent plus à tenir le pays et qui vont se retirer d'ici 2020.
Les Chebabs qui ont des liens étroits, non pas avec l'État islamique, mais avec Al-Qaïda.
Au départ avec Al-Qaïda, c'est une sorte de franchise d'Al-Qaïda.
Oui.
En réalité, maintenant il y a des scissions dans le Nord qui se sont rapprochées de l'État islamique. Donc on peut penser qu'il y a à la fois une guerre entre Al-Qaïda et l'État islamique, mais ça n'empêche pas finalement les Chebabs d'être parfaitement opérationnels et de contrôler. Alors là, au mois de septembre, ils ont pris une ville à la frontière du Kenya, ils mettent des bombes. Alors parce que là on parle de cet attentat parce que c'est quelque chose de tout à fait stupéfiant, mais il y a des attentats dans la capitale ou dans toutes les villes régulièrement, hein, tous les mois il y a des attentats qui font une dizaine, deux dizaines de morts, sans que personne n'en parle, mais c'est un pays qui n'est pas plus tenu. Les Américains ont envoyé des soldats, ils ont des drones tueurs, ils arrivent à éliminer progressivement tous les chefs des Chebabs, mais ça ne change rien au film, finalement. On est sur un échec total d'une intervention internationale dans un pays qu'on n'arrive pas à stabiliser.
Dans un pays qu'on n'arrive pas à stabiliser. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le stabiliser, ce pays?
Mais parce que je dirais que c'est un peu la même chose dans tout le Sahel, parce que finalement, vous allez du Mali jusqu'à l'Afghanistan, vous avez un peu la même situation, avec des interventions étrangères qui sont très techniques, qui ont beaucoup de matériel, mais qui ne s'attaquent pas aux racines du problème, qui sont
la corruption.
La corruption, bien entendu.
Bien sûr.
Parce que tout l'argent qu'on envoie en Somalie s'évapore. Dans les poches du gouvernement et puis des gens qui sont autour. Absolument pas. Et puis, il y a un problème aussi de développement, dans la mesure où c'est un pays qui est frappé par la sécheresse, qui n'a plus de ressources, ni sur terre, parce que c'était des éleveurs, mais les pâturages sont à sec, donc ils sont devenus des pêcheurs, mais la mer est polluée par les boues rouges qu'on a déversées, par toutes sortes de navires-usines qui viennent d'Asie du Sud et du Sud-Est, qui raclent les fonds. Alors, du coup, les jeunes, ils n'ont pas d'avenir, pas de travail, et ils s'engagent souvent contraints et forcés dans les Chebabs. Hein, c'est pas tellement une question de religion, parce que tout le monde est autant musulman dans l'opposition que dans le gouvernement. Il n'y a pas du tout d'éducation, de motivation religieuse derrière tout ça. Mais encore une fois, je crois que la solution pour ces jeunes aujourd'hui...
Al-Qaïda et l'État islamique en profitent de la situation, évidemment.
Ah ben évidemment, évidemment. Pour instaurer quoi? On peut se le demander, dans la mesure où c'est surtout des trafics qui fleurissent derrière ça.
Oui.
Mais il n'y a pas de projet de faire un État somalien sur un mode nouveau, même islamique.
Oui, oui. Alors j'ai vu que la population avait manifesté en disant il est temps maintenant que de se lever ensemble, de dire non à la violence. Oui, enfin bon...
C'est la population de la capitale.
C'est la population de la capitale,
qui a un minimum de services avec des ONG qui sont là, avec des institutions internationales, qui travaillent et qui arrivent à avoir des miettes, un peu de l'argent qui est déversé dans le pays. Mais dans les campagnes, les gens sont abandonnés à eux-mêmes.
Les gens sont abandonnés à...
Et il y a une croissance de la population, faut pas l'oublier, parce que ces pays-là sont des pays jeunes.
Oui.
Les jeunes n'ont pas d'instruction, ils n'ont pas d'avenir. Donc, soit ils traversent la Méditerranée dans les cas qu'on connaît, c'est pas le cas en Somalie. Mmh. Eux, ils vont plutôt essayer d'aller vers l'Arabie, en traversant à travers le nord de la Somalie. Faut traverser le golfe d'Aden, et puis là, on tente sa chance dans aux Émirats ou dans ces pays-là. Mais le résultat est un peu le même, c'est-à-dire que soit on part, soit sur place,
comment sommes-nous présents, nos Français?
Comme nous, comment sommes-nous présents, nous, Français?
Ah ben, absolument pas, je dirais.
Absolument
on se
pas,
souvient
hein.
de l'expérience oui, malheureuse.
Oui.
Hein, de,
ben oui, je me souviens, oui.
De Bernard Kouchner, mais oui. C'est pas un pays qui a une tradition de relation avec la France. Alors,
oui.
la France a une base à Djibouti.
Oui,
importante,
à Djibouti, à côté, oui.
Qui fait partie de l'ensemble culturel somalien, parce que Djibouti, c'est un président qui se rattache au peuple somalien, je dirais. Mais tout ça n'est pas utile, n'est pas opérationnel, hein. Jusqu'à présent, on n'est pas concerné, on est beaucoup plus présent avec Barkhane, bien sûr, du Tchad jusqu'à la Mauritanie. Mais c'est une autre affaire, mais qui ressemble quand même, malheureusement, un peu à ce qui se passe en Somalie, avec la chance qu'on ait des populations qui sont beaucoup moins guerrières que les nomades somaliens.
Merci Marc Lavergne, merci beaucoup. Hein. Merci d'être venu nous voir. On avait besoin d'en savoir un petit peu plus sur cet attentat qui n'a, comme je le dis encore une fois, pas provoqué l'extinction de la Tour Eiffel. Il est 7h48. Merci d'être avec nous.
RMC, le face-à-face, Brunet Neumann.
Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour.
Bonjour, bonjour Jean-Jacques.
Vous allez bien, messieurs?
Très bien.
Bon, dites-moi, vous avez regardé le président de la République hier soir ou
oui.
pas?
Oui.
Oui. Et alors?
Et alors, écoutez, il y avait des objectifs affichés. Hein. Il voulait montrer la pédagogie de ses réformes. Il voulait décoller l'étiquette de président des riches. Très bien. Il y avait quand même un objectif non dit, c'était de faire patienter les Français. Sur quoi les Français jugent la politique et les responsables politiques? Sur les résultats. Au bout de 5 mois, par définition, Emmanuel Macron ne peut pas avoir de résultats. Et en plus, les réformes qu'il entreprend sont des réformes de temps long. Donc, qu'est-ce qu'il est venu dire hier? Il est venu dire aux Français... patientez, faites-moi confiance, dans 18 mois ou 2 ans, eh ben on aura des résultats tangibles sur le chômage et à la fin du quinquennat, vous verrez que je ne me trompe pas. En attendant, on est obligé de le croire et sur certains points, bah il était crédible parce que c'est quand même un bon pédagogue, sur d'autres, je vous avoue qu'il l'était moins.
Il y a quand même des sujets qui n'ont pas du tout été abordés. Trump, les États-Unis, l'Europe, pas été abordé. L'écologie, rien. Il y a une polémique en ce moment avec Nicolas Hulot, rien sur l'écologie. Et alors, bon... Maintenant, sur les sujets qui nous occupent, c'était les polémiques de ces dernières semaines, il a été étonnant, parce qu'il a été d'une opiniâtreté assez rare en politique. Quand on lui reproche c'est français de rien, vous savez, les fameuses petites phrases, oui. le bordel...
C'était long là-dessus.
Il est étonnant, mais il est long. Mais tout homme politique aurait dit, oui, effectivement, je vous prie de m'excuser, certaines personnes ont pu être choquées, j'ai été un peu familier. Non, non, rien du tout. Il explique pourquoi il a dit ça, et il ne fait pas machine arrière, quoi. C'est assez étonnant et c'est assez rare en politique. Voilà, ça c'est pour les sujets qui touchent au style. Maintenant, je trouve qu'il a plutôt été bon sur ses réformes. Il a su quand même expliquer où il allait, quel était le cap. On a compris qu'il y avait eu une première réforme, bien évidemment, qui portait sur le droit du travail, et que d'autres réformes allaient avoir une couleur un peu plus sociale.
Je vous trouve bien consensuel. Hein,
ouais,
je vous le dis tout de suite. Je voulais que je vous dise ce que je pense. Moi, je vais dire très vite ce que je pense.
Je vous dirai après.
On est avec le président de la République. Première intervention à la télé du président de la République. Par quoi commence-t-on pendant 12 minutes par nous parler des petites phrases du président de la République?
Mais c'est les journalistes.
Le monde est au bord d'un accident nucléaire avec Trump, incontrôlable, avec la Corée du Nord, avec l'Iran. Et on commence par... ces petites phrases. Commençons par l'état du monde. Le monde est au bord de l'asphyxie. L'environnement c'est essentiel. On n'en parle pas un mot.
Alors, Jean-Jacques,
d'Europe.
La question, c'est
essentiel. Attendez. Et parlons de la France.
Oui, mais alors, Jean-Jacques, d'accord, mais vous êtes en train de faire, et alors là, je suis d'accord avec vous, le procès des journalistes.
Mais je ne sais pas si c'est le procès des journalistes.
Vous faites le procès des trois journalistes qui ne lui ont posé aucune question sur ces sujets. Aucune.
Il y a eu deux questions à la fin. Non, c'est pas.
Et puis vous croyez sérieusement qu'un entretien avec le chef de l'État se passe sans que le chef de l'État ait une idée de l'organisation des questions?
Éric, c'est dommage. Ouais. C'est dommage.
Non, alors,
et moi, je voudrais ajouter un dernier point, c'est qu'une interview à trois journalistes, ça ne peut jamais être bon.
Ça, c'est une vraie question.
Jamais être bon.
Moi, c'est intéressant parce que, évidemment, tout ce que vous dites, c'est tout ce que le président n'a pas dit ou n'a pas pu dire ou n'a pas eu le temps de dire. Mais moi, il y a toutes les questions auxquelles il n'a pas donné de réponse qui m'ont posé problème hier
soir.
Alors,
allez-y, lesquelles?
La première, vous vous souvenez, l'un de ses engagements, c'était le chômage pour tous les démissionnaires. J'ai eu le sentiment hier qu'il était en train de faire un peu marche arrière. C'était une fois.
Mais il fallait le bousculer là-dessus.
C'était une fois tous les 5 ans. Maintenant, c'est peut-être une fois tous les 6 ou 7 ans.
Exactement.
Et surtout, ce sera conditionné à un projet. Deuxième non-réponse.
Quand? Comment?
Deuxième non-réponse.
Oui.
Le chômage pour tout le monde. Les entrepreneurs, les indépendants, etc. Qui paye? Pas
oui.
de réponse.
Oui.
Autre sujet sur les expulsés hein, après l'affaire de Marseille, le double assassinat de Marseille. Vous savez qu'il y a 13 000 personnes qui sont expulsées du territoire français chaque année, mais il y a 91 000 personnes qui sont interpellées chaque année en situation irrégulière sur le sol français. Parmi eux, des gens qui sont condamnés. C'était déjà une promesse de Nicolas Sarkozy. Ça remonte
mais
à 10
sûr,
ans.
Mais
il
bien
a
sûr,
promis qu'il allait le faire, mais quand? Comment,
puis
dans quel cadre législatif,
combien, voilà. combien, quand, comment, mais voilà. évidemment des questions
et donc,
précises.
Et donc, non,
mais où a été le concret hier soir?
Il a pas
J'ai
été
envie
tellement
de vous poser
bousculé.
Une question. Quelle est la mesure concrète que vous avez reçue d'intervention
hier? Non, mais Macron a répondu aux questions qu'on lui a posées. Mais c'est vrai que sur la question du chômage, on le sait, ça se dit en ce moment dans l'entourage de Macron. Ils savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment honorer cette promesse de campagne qui consiste à donner le chômage pour tous, y compris pour les démissionnaires. Ils sont embarrassés parce que ça rentre pas dans les clous et c'est vrai qu'il n'a pas été bousculé sur ce registre.
Mais ils sont embarrassés. Hein, embarrassons
mais je suis d'accord, mais les journalistes ne l'ont pas embarrassé hier. Qu'est-ce
je
que
vais
vous
pas
voulez
faire le procès.
Il est pourri.
Si,
parce qu'en fait, vous le faites.
Non,
en fait,
non, c'est pas les journalistes qui sont en cause.
On peut les mettre. On peut. Pourquoi pas? Moi,
une autre question. On ouvre des négociations en ce moment sur la formation professionnelle, l'apprentissage, l'assurance chômage, etc. Il a un objectif, Emmanuel Macron, c'est de ne surtout pas perdre le soutien de la CFDT. Et donc hier, il a envoyé un signal qui est passé un peu inaperçu. Il veut revisiter les règles sur l'intéressement et la participation.
Oui.
Tout le monde a compris que j'espère que c'est un clin d'œil à la CFDT. Mais là encore, il n'a pas dit quoi, comment. Pourquoi? Or, c'est peut-être une idée très intéressante pour montrer qu'il marche et sur sa jambe gauche et sur sa jambe droite. Pas de question, ou en tout cas, pas
vous
de réponse
sur
le point.
Vous savez ce matin, sur le style et le langage.
Mais bien sûr.
Mais c'est pas ça qui compte.
Non, mais
ce qui compte, c'est le concret des
mais
Français.
Jean-Jacques, non mais juste une chose.
Oui.
On est en train de se lamenter, et on a raison, hein, mais sur l'appauvrissement du débat politique, du commentaire politique, et de l'analyse politique. Ça fait des semaines qu'on est sur foutre le bordel. Ça fait des semaines qu'on est sur les gens de rien. Ça fait des semaines qu'on est sur le mot fainéant. C'est nous, collectivement, qui concentrons le débat sur cette espèce de d'axe infantilisant et simplificateur. Je suis désolé, vous avez raison. On aurait dû parler d'autre chose. On a fait 12 minutes, disait Laurent Neumann. 12 minutes sur quoi? Sur bordel. Sur le bordel.
Oui.
Ça n'a pas de sens. 12 minutes sur une heure consacrée à la petite phrase sur le bordel. Le débat en France est infantilisé.
Et hier soir, je m'attendais ce matin à avoir un débat avec Eric sur la fameuse métaphore sur le premier de cordée. On a suffisamment dit, Emmanuel Macron l'a dit, qu'il était contre la théorie du ruissellement. La métaphore du premier de cordée, ça marche ou ça marche pas dans une société où il y a de telles inégalités entre ceux qui sont en haut de la cordée et ceux qui sont en bas. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, peut-être que c'est là où il n'est pas forcément convaincant. Et moi, j'aimerais qu'on parle de ces sujets-là aussi.
Merci, messieurs. Vous réagissez. De toute façon, vous aurez l'occasion de réagir tout à l'heure entre 9h et 9h30. Ce sera le premier sujet de notre bureau de vote. 7h59. Jean-Michel Blanquer, nous serons concrets avec le ministre de l'Éducation nationale, sera mon invité tout à l'heure à 8h30. RMC.